En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi,
Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà que notre Seigneur nous demande de comprendre sa relation à son Père en tant qu'il est sa parole et en tant qu'il est homme. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous appelés, comme le dit Saint Jean, qui a écrit des épîtres, des lettres, à croire en l'incarnation. Et cette incarnation, le fait que le Verbe s'est fait chair, que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, nous invite à nous poser la question de notre religion et nous invite encore une fois à bien comprendre ce que il nous a été révélé de Dieu. Cette révélation, c'est un voile qu'on retire sur qui recouvrait une lumière peut-être trop difficile à contempler pour les siècles qui ont précédé et qui ont été annoncés par les prophètes pendant des siècles. Lorsque le Christ va accomplir les prophéties du peuple hébreu, il va petit à petit soulever le voile sur une nature divine, paternelle et filiale, et d'un amour qui va subjuguer un peuple qui devait garder la foi au milieu du paganisme, au milieu de la violence. Et les religions païennes montrent bien que toute religion ne vient pas de Dieu et que Dieu a voulu faire la pleine lumière sur lui pour que nous ne soyons pas à errer, à marcher dans les ténèbres, mais à trouver une lumière. Et c'est la raison pour laquelle même un des 12 apôtres, dans son envie et dans sa jalousie, s'est écarté même de celui qui l'a suivi pendant 3 années, en le voyant prier, en le voyant accomplir les Écritures, en le voyant faire des miracles. Et même si il y a des auteurs, des prêtres, même des évêques qui voudraient donner à Judas un rôle un peu romantique dans le fait qu'il aurait voulu pousser le Christ à sa passion ou pour se révéler, tout cela est bien loin de ce qui nous a été révélé. Comme le dit l'évangéliste, Judas aussi volait. Il était dans cette cupidité de l'argent et il a demandé de l'argent pour vendre le Christ. Alors, nous pouvons le recommander à Dieu dans le sens que il a jeté cet argent, il a regretté d'avoir donné le sang du juste. Mais il s'est pendu ensuite. Alors l'Église, dans sa fidélité à l'Esprit Saint, ne peut dire si une âme s'est totalement écartée de Dieu. D'autant plus que dans notre vie moderne, et telle que nous connaissons la fragilité de la psychologie humaine, nous voyons des personnes qui sont dans un tel désespoir que même leur conscience, leur raison est presque retirée. Toutefois, la mission de ceux qui sont à leur côté, c'est de les empêcher de tomber dans ce désespoir ou dans cette tristesse, puisque la maladie de la dépression est la maladie du siècle, dit-on. Non seulement on travaille d'une manière décalée, mais en plus, nous n'arrivons pas à nous reposer, à voir toutes ces images sur Internet, à écouter tant d'informations, de choses diverses, de loisirs divers, tout cela qui ne nous permet pas d'avoir un repos naturel et qui fatigue autant notre cerveau que notre intelligence. Oui, nous sommes fatigués parce que nous sommes écartés de la contemplation. Nous sommes écartés du silence qui nous permet de réfléchir et de comprendre que ce qui nous arrive, bien souvent, n'est pas si grave et qu'il y a une espérance. Et cette espérance, justement, elle est fondée sur la promesse que Dieu va continuer cette puissance, cette venue, ce sacrifice de la croix en distribuant les mérites par son esprit d'amour. Cela fait des siècles que tant d'hommes et de femmes ont été confortés par l'Esprit Saint à travers des épreuves personnelles, des épreuves dans leur ville, dans leur pays, à travers des tensions, à travers des guerres, et qu'il y aura toujours eu ces pépites, ces diamants dans la glaise, dans la boue de ce monde pour illuminer les âmes et pour leur redonner confiance. C'est la raison pour laquelle le Christ nous encourage et il nous promet son assistance, il nous promet son esprit. Et la tristesse est une passion de l'âme qui s'arrête sur la souffrance, qui s'arrête sur la peine que nous avons et qui ne s'ouvre pas sur le futur. Or, voilà que pendant cette neuvaine de la Pentecôte, il y a un signe, une image particulière de cette espérance. 9 jours, et parfois nous attendons bien plus longtemps, lorsque nous désirons une grâce particulière. Il y a des personnes qui désirent avoir leur bac. Il y a des personnes qui désirent avoir de bonnes notes à l'école, au collège, au lycée. Il y a des personnes qui désirent avoir un bon métier. Mais voyez-vous, ces belles prières, surtout à Saint-Antoine de Padoue, elles sont écoutées avec bienveillance par le bon Dieu. Mais à quel moment nous demandons l'Esprit Saint? À quel moment nous demandons cette bonté, cette bienveillance, cette intelligence de l'âme qui va nous donner une conscience qui nous fait répondre en vérité, qui nous donne de la force une force d'âme pour ne pas céder à nos caprices, à nos colères, à nos agacements, et pour être des liens de paix. Mais au-delà même de cette vie quotidienne, dans des choix même de société et dans des choix religieux. C'est la raison pour laquelle les apôtres vont partir à travers le monde pour cette religion d'un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est laissé crucifier par ses frères et qui est ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai. Le 13 mai, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Le mois de mai, c'est le mois consacré à tourner nos cœurs plus particulièrement vers la Vierge Marie. Or, dans ce monde qui veut des preuves de tout, eh bien, le miracle de Fatima, le 13 octobre 1917, c'est ce soleil qui se déplace dans le ciel devant 50 000, 70 000 témoins. C'est la Vierge Marie qui nous parle, qui nous dit que la Russie communiste va répandre ses erreurs à travers le monde et que des pays entiers vont souffrir. Cela en 1917. C'est la Vierge Marie qui apparaît à l'île Bouchard et qui demande à 4 enfants de prier pour la France. Et une des enfants va lui demander « Est-ce que vous pourriez faire un miracle ?» Parce que dans le village, on ne nous croit pas. Le 8 décembre 1948, il y aura plus de 400 personnes qui viendront. Il y aura simplement un éclair, une lumière, un faisceau lumineux qui frappera l'endroit où la Vierge Marie se trouve dans l'église. Une des 4 voyantes aura ses yeux guéris de petits miracles à l'île Bouchard. Car la Vierge Marie dira « Je ne suis pas venue ici pour vous obtenir des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. » Car après la guerre, le 39-45, nous étions dans grande tension. Et la Vierge Marie aime la France. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous devons nous tourner vers cette femme, cette mère, pour qu'elle puisse nous apprendre cette docilité, cette obéissance aux inspirations de l'Esprit-Saint. Est-ce que vous croyez que la Vierge Marie était tellement douce, tellement gentille, avec la tête penchée, qu'elle n'avait aucun caractère, qu'elle n'avait aucune personnalité? Vous croyez vraiment que la Vierge Marie n'avait pas cette force d'âme qui, dans le village de Nazareth, qui ensuite, au milieu des apôtres, pendant ces 9 jours, dans la salle où le jeudi saint Jésus a célébré la Sainte Messe, vous ne croyez pas que la Vierge Marie, au milieu des apôtres, pendant ces 9 jours, n'a pas soutenu la prière de ces hommes qui avaient peur de mourir? Oui, la Vierge Marie, elle est forte. Et quelles que soient les inquiétudes que nous pourrions avoir, pour nous-mêmes ou pour la Paris, pour la France, avec ces pauvres gens, près de 3000 migrants actuellement qui dorment sur le trottoir, sans famille, qu'on a fait venir ici, sans but, avec d'autres encore, ces inquiétudes, cette xénophobie qui va se développer, ces tensions qui font qu'un pauvre homme, un Tchétchène, prend un couteau et va poignarder les gens près de l'opéra hier soir. Tout cela, voyez-vous, ne doit pas nous faire perdre la foi. Car lorsque la Vierge Marie, justement, apparaît, elle montre le surnaturel, parce que ça fait 2000 ans qu'elle vivait. Lorsque nous allons recevoir le cœur du Padre Pio, prélevé sur son corps, ce cœur qui a battu pour le Christ, lui, prêtre qui a été stigmatisé, eh bien pendant 50 ans, ses plaies ne se sont ni infectées ni refermées. Et encore une fois, comme je le disais jeudi de l'Ascension, Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, une Française qui a vécu tous les vendredis la Passion et qui n'a ni mangé ni bu pendant 53 ans. Oui, Dieu se manifeste, il y a des miracles, il y a du surnaturel, mais cela ne peut pas emporter notre cœur si nous n'avons pas la confiance et l'espérance. C'est la raison pour laquelle Marie apparaît, pour soutenir cette confiance et cette espérance. Que nous puissions être dans cette foi, cette espérance et cette charité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.